Rennes, j'écoute les voix du service public. C'est le podcast des archives de Rennes dans lequel nous vous proposons de découvrir des témoignages de celles et ceux qui font la ville.
Premier week-end, il y avait un monde fou, complètement dingue. Premier week-end gratuit, quoi. Il y avait des gens qui faisaient la queue. Et c'était drôle parce que les gens qui prenaient le métro, ils arrivaient à Poterie et puis ils voulaient rester dans le métro pour faire demi-tour dans la zone technique et puis repartir dans l'autre sens. Ils voyaient bien la queue pour remonter de l'autre côté. Et donc, et nous, on bloquait les portes, on obligeait les gens à sortir. Il y avait quelqu'un à chaque porte pour obliger les gens à sortir. Moi, j'ai fait ça un moment pendant 2 heures. Et donc, il y avait une appétence pour ce truc qui était colossal. Et effectivement, quand on a fait les premiers comptages au mois d'octobre, on était déjà à 90 000. Quoi. Et là, on s'est dit, peut-être qu'on rachète des rames.
Dans cet épisode, à écouter le temps d'un trajet de métro de la ligne B, nous découvrons le parcours de Noël Philippe, ancien directeur général des services urbains à Rennes Métropole, en charge des déchets et des transports. Il est à la retraite depuis le mois de décembre 2020. Ses missions en font un témoin privilégié du dossier du métro pour le compte de la collectivité qui était alors la plus petite ville du monde à choisir ce mode de transport. Arrivé à Rennes le 1er décembre 1982, Noël Philippe y est venu faire de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de la conduite d'opération pour l'État et les collectivités locales avant les lois de décentralisation. Après s'être occupé de maisons de retraite, d'un échangeur sur la rocade et de plusieurs nouveaux bâtiments comme celui des Langues à l'université Rennes 2, il a rejoint le district de Rennes, l'ancêtre de la métropole, en 1996 pour travailler sur les transports et les déchets.
95, je suis en subdivision territoriale et je suis en train d'essayer d'attendre d'être promu ingénieur divisionnaire à l'État. Et puis, en étant promu ingénieur divisionnaire, je me dis, bon, il va falloir que je parte du département, je ne sais pas où, région parisienne ou autre. Et puis, bon, avec toutes les questions qu'il y a derrière, ma famille, est-ce que je pars tout seul? Enfin, bon, bref. Donc, en 95, j'ai reçu un coup de fil du directeur général du district. Il m'a demandé si j'étais intéressé par un poste d'un certain type, donc je suis allé le voir. Donc il m'a présenté le poste de directeur technique au district de Rennes pour être responsable de tout ce qui était transport de déchets, et dont le suivi de l'opération de construction du métro et toute l'évolution des transports qui allait avec. Quoi. Donc je lui ai dit que j'étais d'accord, et puis après j'étais à l'État. Et parce qu'on a convenu à l'époque, c'est qu'il fallait absolument que j'aie mon grade au-dessus pour arriver. Et ils ont été sympas, hein, au district, ils ont attendu que j'aie mon grade. Quoi. En fait, tout ça vient aussi des élections de 95. Quoi. Edmond Hervé, qui était président du district, et puis un certain nombre d'autres élus, voulaient absolument que la fonction de président de la SEMCAR...
La SEMCAR, pour Société d'économie mixte des transports collectifs de l'agglomération rennaise, a reçu la mission par la collectivité de construire et de préparer l'exploitation de la future ligne de métro, la maîtrise d'ouvrage.
La fonction de président de la SEMCAR, la fonction de président de la commission de transport, donc vice-président au transport, soit porté par 2 personnes différentes. Donc ils cherchaient quelqu'un pour aider les élus à mettre un peu d'ordre là-dedans, parce que c'est eux qui avaient décidé de mettre de l'ordre.
C'est ainsi que Noël Philippe a eu à s'occuper du dossier de la première ligne de métro, un dossier en cours.
Sur la ligne A, le projet est arrêté, complètement arrêté. Il faut construire, suivre la construction et permettre l'organisation de toute la prise de décision. Prise de décision qui était quand même grandement facilitée par le fait que les élus se sont énormément investis, puisque... Pour la première ligne, on avait quasiment un comité de pilotage métro avec les élus très très régulier et à certaines périodes, même toutes les semaines. Là, j'étais dans le grand bain, là, dans la collectivité qui avait la mission, donc il fallait que je l'assure. Quoi. Puis avec un poste quand même à haut niveau, j'avais quand même sous ma responsabilité plus de la moitié du budget du district. Quoi. Puis quand je suis arrivé, on a posé sur ma table un marché avec la société Matra qui valait 1 milliard de francs. Quoi. J'ai dit, putain, qu'est-ce que j'en fais, quoi. J'ai eu un moment, là, un peu de solitude. Donc, c'est la première fois dans ma carrière que j'étais confronté à un chiffre comme ça, quoi.
La première ligne du métro a redessiné la carte des transports à Rennes. En voici l'une des étapes avec cette archive, un extrait de la séance du conseil municipal du 4 novembre 1996 avant de retrouver Noël Philippe. Il va être question du VAL, acronyme signifiant véhicule automatique léger, le type de métro choisi pour Rennes. Au nom de la commission Aménagement et Développement, Madame Poirier présente le rapport suivant. Mes chers collègues, le développement et l'amélioration d'un réseau de transport en commun performant est l'un des objectifs principaux de la ville de Rennes et du district de l'agglomération rennaise. Ce réseau comprendra le VAL et le réseau de bus restructuré. Le plan de déplacement urbain adopté par le district en concertation avec l'ensemble des communes a retenu la réalisation de 3 axes lourds pour le réseau d'autobus Est-Ouest, Nord-Sud-Est et Nord-Sud-Ouest. Ces axes lourds seront des sites protégés sur lesquels les performances des transports collectifs seront très bonnes. Ils joueront un rôle complémentaire au VAL avec lequel ils seront en correspondance, en particulier à la station République. Parmi ces 3 axes lourds, l'axe Est-Ouest est particulièrement important. Son tracé ira de l'extrémité ouest du mail François Mitterrand, confluence de l'Isle et de la Vilaine, jusqu'au cœur du domaine universitaire de Beaulieu et de la commune de Cesson. Il traversera la ville dans ses espaces les plus centraux que sont les quais. Les objectifs de cette importante opération d'aménagement urbain sont de plusieurs natures. Il constituera le tronc commun le plus important par le nombre de lignes concernées, directement 3 lignes urbaines et 5 lignes suburbaines, par correspondance 6 lignes urbaines et 3 lignes suburbaines. Il permettra l'amélioration de l'accessibilité au centre pour 45 000 habitants de 11 communes hors Rennes. Il assurera une desserte directe de 20 000 habitants et de 23 000 emplois localisés à Rennes et sur le campus de Beaulieu. Il correspondra à une fréquentation journalière hors effet induit de plus de 20 000 personnes. Les dispositions envisagées permettront une meilleure régularité et une augmentation de la vitesse commerciale des lignes à 21,6 km/h contre 16,8 km/h aujourd'hui. La création de l'axe Est-Ouest aura un impact direct sur l'image du réseau, le confort des usagers et la complémentarité entre VAL et bus. Mieux faire dialoguer bus et métro dans un réseau de transport revisité, c'est aussi ce à quoi a contribué Noël Philippe, tout en négociant avec les différentes parties prenantes du projet.
Avec l'enquête d'utilité publique, il y avait un réseau qui était associé. Donc ce réseau avait fait l'objet d'une analyse, et cette analyse avait montré qu'il y avait beaucoup trop de gens qui étaient pénalisés. Laisser trop de gens à côté, et notamment, et même dégrader leurs conditions de transport, ce qui n'était absolument pas acceptable. Donc à ce moment-là, moi j'ai proposé aux élus et proposé aux exploitants de dire on remet tout sur la table, quoi. On reprend un plan et sur le plan, il n'y a que la ligne de métro parce que ça on ne peut pas y toucher. Et puis qu'est-ce qu'on fait autour? Et puis on a tout reconstruit. Et après, les fondamentaux reviennent, un certain nombre de choses reviennent et on a construit le réseau tel qu'il a été bâti. Et puis à ce moment-là, on s'est aussi dit que comme le métro existe, les quartiers où il n'y a pas le métro, il faut peut-être quand même qu'on élargisse le temps des bus. Après, on a tout le jeu des discussions. Là. On proposait quelque chose, ils voulaient pas la même chose. Donc après, il faut discuter. Faut discuter. Je me rappelle la commune de Passé qui voulait absolument qu'on continue à passer par la rue de Saint-Brieuc, les chèques postaux pour arriver au centre-ville parce qu'il y avait quelques personnes à Passé qui habitaient aux chèques postaux. Et nous, on défendait de passer par Rennes 2 pour ce qui a été mis en place. Pour faire la connexion au métro, parce qu'on disait avec ça, vous desservez Rennes 2 direct de la commune, vous desservez l'hôpital, tout le nord du centre-ville, les lycées privés du centre-ville, on a une liaison beaucoup plus rapide avec Beaulieu. C'était... Ils n'ont jamais accepté, mais on l'a fait quand même. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de... Plus personne n'en parle de l'ancien. Mais on l'a fait quand même parce que Daniel Lelaveau, qui était l'élu politique, il a su s'expliquer. À bout d'un moment, la relation qu'on a avec les communes, on peut avoir des relations techniques, etc. Et ça finit par une relation entre élus, forcément. Quand on joue de ce genre de choses, le rôle du politique, il est primordial. Le rôle du technique, il est là pour mettre en œuvre, proposer des choses, impulser des choses, même quand il y croit et qu'il voit que ça ne prend pas trop de prise, mais c'est jamais lui qui décide, in fine.
À l'horizon 2002, alors que l'inauguration du métro se précise, de nombreuses questions demeurent.
Tout le monde était dubitatif, c'est clair. Et puis, effectivement, il avait été annoncé que 2 ans après la mise en service, il y aurait 80 000 voyageurs par jour. Et même, il y a eu des études, la fameuse étude où il y avait les pénalisés, qu'on avait fait en interne pour voir un peu l'impact réel du réseau tel qu'il avait été dessiné, était en dessous de 80 000. Donc... certains étaient quand même très très inquiets. Et donc, de toute façon, la machine était partie. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument faire le réseau bus associé le plus performant possible pour que ce soit complémentaire. Donc c'était quand même ce réseau, c'était un gros enjeu. Et puis après, il fallait se lancer, quoi. Donc, et puis effectivement, on a fini les travaux, on a fait la communication. Et puis, on a ouvert le métro gratuitement la première semaine. Et à la fin de la semaine, on s'est dit, c'est gagné, c'est bon. Parce que les gens commençaient à râler. Parce que cette première semaine, on l'avait ouvert de 7h le matin à 18h. Et à 18h, on fermait parce qu'on avait des travaux à finir. Des reprises de peinture, des reprises de carrelage, enfin des détails. Quoi. Mais il fallait ce temps-là, parce qu'une fois que c'était mis en service, on ne l'aurait plus après. Quoi. Et donc, on s'est vu que des gens, à 18h, mais quoi, c'est pas possible, c'est nul, votre métro qui ferme à 18h. Et puis moi, j'ai ma voiture à la poterie, je suis à République, comment je fais? Je dis, je suis désolé, mais cette semaine a toujours été annoncée à 18h, donc je suis désolé, on ne peut pas rouvrir. Donc on était obligé d'être physiquement à l'entrée des stations tous les soirs à 18h, toutes les stations, quoi. Là, on s'est dit quand même, il y a quand même du monde qui. Et puis le fonctionnement des parcs relais qui est avec. Parce qu'il y avait aussi quand même en cours de route le fait que les parcs relais, moi quand je suis arrivé en 96, il y avait 600 places de parcs relais. Et après, on en a livré 2000 quand même. Quoi. Donc en 97, en allant à Toulouse avec des élus, on a complètement chamboulé le programme et on a repris tout le programme des parcs relais à zéro. On a agrandi les trois qui étaient prévus et on a rajouté un. Donc ça a mis quand même beaucoup d'argent sur la table. Et puis après, l'opération s'est déroulée. Le premier week-end, il y avait un monde fou, complètement dingue. Premier week-end gratuit, quoi. Il y avait des gens qui faisaient la queue. Et c'était drôle parce que les gens qui prenaient le métro, ils arrivaient à Poterie et puis ils voulaient rester dans le métro pour faire demi-tour dans la zone technique et puis repartir dans l'autre sens. Et nous, on ne voulait absolument pas que les gens prennent l'habitude d'aller dans la zone technique. Donc les gens ne voulaient pas. Ils voulaient repartir parce qu'ils voyaient bien la queue pour remonter de l'autre côté. Et donc, et nous, on bloquait les portes, on obligeait les gens à sortir. Il y avait quelqu'un à chaque porte pour obliger les gens à sortir. Moi, j'ai fait ça un moment pendant 2 heures. Et donc, il y avait une appétence pour ce truc qui était colossal. Et effectivement, quand on a fait les premiers comptages au mois d'octobre, on était déjà à 90 000. Quoi. Et là, on s'est dit, peut-être qu'on rachète des rames.
Extrait du discours d'Edmond Hervé, député maire de Rennes, lors de l'inauguration du métro le 15 mars 2002. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être là pour la fête inaugurale du métro de Rennes et de Rennes Métropole. Votre présence consacre une réussite que nous devions à la population et à la ville. Réussite, plus de 300 000 personnes sont venues, au cours de ces derniers jours, admirer le bel ouvrage. Voilà qui prouve l'intérêt de nos concitoyens pour ce qui se fait. La foule s'est donné rendez-vous dans la bonne humeur, très souvent en famille, des plus jeunes aux plus âgés. Tous, du plus insouciant au plus exigeant, ont dit leur satisfaction. Voir ce monde se presser, en patience, pour découvrir l'objet de tant de passion, de tant d'intelligence, de tant d'énergie, nous procure un réel bonheur. Je le garderai longtemps en mémoire, car il est celui de ceux en qui je crois et qui n'ont jamais cessé d'être la raison de mon engagement. Ce bonheur, c'est celui de voir des gens fiers, fiers d'eux-mêmes et de leur ville. Cette fierté récompense tous ceux qui ont travaillé à ce résultat, de l'ingénieur à l'apprenti, de ceux que l'on a vus à ceux qui sont restés dans l'ombre. Je leur exprime à tous ma reconnaissance. Pour monter dans le métro, les habitants de la métropole rennaise disposent de la carte Corrigo. Là aussi, ce fut toute une histoire dont Noël Philippe a contribué à en écrire les pages d'une carte de transport à une carte multiservice.
La question qui était posée, est-ce qu'on peut livrer une ligne de métro avec tous les enjeux qu'il y avait sur la fréquentation sans avoir un système de comptage fiable? Moderniser la billettique, de passer au magnétique ou à la carte à puce, c'était quelque chose qui était inscrit dans le temps, mais sur lequel aucune décision n'a été prise. L'urgence par rapport au métro était d'estimer si on pouvait, s'il fallait absolument le faire pour l'arrivée du métro, et donc avoir un système de comptage dès le premier jour, ou bien s'il fallait s'affranchir de cette contrainte-là pour garder ouvert tout le champ technique et décisionnel. Donc c'est la deuxième option qui a été prise. Donc le métro était livré avec la même billettique que précédemment, avec les billettiques papier. Donc, et puis on a livré la billettique carte à puce qu'en 2006. Je pense que l'histoire nous a donné raison, parce que si on avait fait vite, on aurait fait du magnétique. Et si on avait fait du magnétique, on n'aurait pas fait aussi rapidement qu'on l'avait fait de la carte à puce, donc on n'aurait pas fait de multimodalité, donc on n'aurait pas fait de multiservice, etc., etc. Si on tire ce fil-là, il y a eu une décision, une forme de prise de risque, mais en même temps une décision qui a été mûrie, réfléchie. C'est vrai que Daniel Delavaux, qui était vice-président de transport à l'époque, et moi-même, on a beaucoup défendu cette option auprès d'Edmond Hervé, du directeur général des services. Je me rappelle une réunion, on était tous les quatre en réunion, on était quasiment à la rentrée de la réunion, deux contre deux. Et puis finalement, on a réussi avec Daniel Lavaux à emporter l'avis de Monsieur Hervé, et je le remercie parce que ça a été quand même un grand saut, là, quand même. À partir du moment où on mettait un système de carte à puce en place, on changeait la façon des usagers d'aborder la montée dans le bus, d'aborder la montée dans le métro, d'aborder globalement l'usage des transports collectifs. C'est-à-dire quelqu'un qui avait un ticket unité, il validait sa première montée, puis après il faisait les correspondances sans rien faire, s'il en avait besoin. Quelqu'un qui était abonné, il faisait au premier jour de sa période d'abonnement. Et s'il était abonné mensuel, bah pendant un mois, il montait dans le bus, les mains dans les poches, par la porte avant, par la porte du milieu, par la porte arrière. Puis dans le métro, pareil, on rentrait comme ça. À partir du moment où on rentrait dans un système bibliothèque avec validation systématique, cette validation systématique avait comme objet de nous permettre d'affiner la connaissance qu'on avait du réseau. C'est-à-dire qu'avant la billettique, un abonné, il validait le premier jour du mois, et après, pendant tout le mois, il ne faisait rien. C'est-à-dire qu'il faisait le même geste que les fraudeurs. On va quand même demander un changement de comportement, demander une forme d'effort, une forme de modification. Donc il faut qu'on puisse mettre des choses en face. Donc au début, on a dit qu'il faut qu'on apporte des services aux usagers. On a mis ça comme ça, écrit sans aller plus loin. Donc les premiers services qu'on a pensés, effectivement, c'était des services liés à la tarification. On a pu faire des tarifications annuelles, des tarifications à la semaine, des tarifications très différenciées en fonction des âges, etc. Donc on a ouvert le champ de la tarification. Et puis après, très vite, on s'est rendu compte que le fait que les gens aient cette carte à puce dans la poche, ça permettait peut-être de faire autre chose. Les trois premières actions qu'on a fait derrière, c'était de se rapprocher des gens qui faisaient de l'autopartage. C'était Paris Métropole qui avait en charge l'autopartage, c'était une association. Et donc, ils ont utilisé la carte Corrigo pour déverrouiller les voitures à travers du pare-brise. L'autre sujet qu'on a lancé très vite, puisqu'on l'a imposé en 2008-2009 aux entreprises, c'était le vélo libre-service. On a dit, on veut que le vélo libre-service soit accessible par la carte Corrigo. Et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'avec la ville de Rennes, on s'est rapproché de l'usage dans les piscines. C'était tellement évident pour moi que de mettre dans cette carte Corrigo, dont pratiquement la moitié de la population en avait une dans la poche, de mettre des tas de choses dedans pour que les gens n'aient pas à côté de leur carte transport, une carte de la bibliothèque, une carte de la piscine, une carte de restaurant universitaire pour les étudiants, une carte de cantine pour les collèges ou les collégiens lycéens, etc. Et puis plus éventuellement des cartes privées ou des cartes d'abonnement, ceci, cela, enfin bon. Et que les services publics puissent se regrouper autour d'une seule carte, pour moi c'était un tel avantage, une telle évidence que je suis devenu militant de la cause, si je veux dire. On travaille avec la région et le département, parce que Corrigo était un nom qui appartenait collectivement à la région, au département et à Rennes Métropole. Comme on a travaillé ensemble, on a aussi pris tous un peu plus ou moins notre bâton de pèlerin. Et moi, j'ai essayé de voir tous mes collègues qui avaient des postes équivalents au mien, qui géraient des services urbains, des services de transport dans les autres collectivités. Je les ai convaincus, je leur ai expliqué de dire il faut que si vous faites une billettique, il faut que vous preniez la carte Corrigo, parce que les gens de Brest ou de Quimper ou de Lorient, quand vous viendrez à Rennes, vous aurez la même carte, vous n'aurez pas besoin de changer de carte, etc. Et puis prendre le train entre les deux, ça sera aussi avec la même carte. Donc aujourd'hui, tous les réseaux de Bretagne qui ont une billettique, ils l'utilisent la carte Corrigo. Et ça, on est la seule région en France à être comme ça. C'est évident, et même peut-être probablement la seule en Europe. On a lancé une procédure avec un bureau d'études. Bon, c'était les services comme Rennes Métropole et Région notamment qui s'en étaient chargés, puisque c'était un peu, ça sortait vraiment de mon domaine. Et quand je disais qu'on travaillait en transversal, c'est-à-dire que quand il y avait un truc qui était plutôt pour quelqu'un, il valait mieux laisser ceux qui savaient faire. Donc j'ai laissé les services comme s'occuper de ça. Et puis un jour, on m'a dit qu'il y avait eu une réunion sur le nom, etc., et qu'ils avaient que la réunion avait été très très courte parce que le nom Corrigo s'était imposé à tout le monde. Et effectivement, j'ai dit ouais, c'est. Je n'ai même pas demandé qu'est-ce qu'il y avait comme votre proposition, parce que c'était tellement évident que ce nom, il représentait la région, il représentait les transports en même temps. Donc c'était le bureau d'études qui a trouvé ça, c'est un bureau d'études nantais, ils ne sont même pas de la région. Ils ont vraiment fait très fort, quoi. Et après, on a eu la deuxième étape du visuel. Bon là, l'étape du visuel, c'était un peu différent, mais c'est vrai que je me rappelle avoir pris les propositions, les avoir mis dans mon porte-monnaie, là où vous savez, les petits porte-monnaies où on range les cartes les unes au-dessus des autres, quoi. Et quand on mettait le Corrigo orange dedans, au milieu de tous les autres, il sortait complètement. Donc ça a été retenu à ce moment-là. Et puis honnêtement, là on est presque 20 ans après maintenant, le visuel n'a pas vieilli du tout, quoi. Donc il reste une très grande modernité. Donc, donc merci à ce bureau d'études. On avait un système qui était quand même relativement simple, quoi. On met dans la carte Corrigo des identifiants. Ces identifiants, ils se substituent à vos anciens identifiants dans les anciens logiciels. Et puis c'est tout, quoi. Et on a bâti Corrigo comme ça. Et donc, ce qui fait que Saint-Malo est arrivé dans Corrigo 10 ans après nous, ou peut-être un peu moins. Brest est arrivé 6 ans après. Aujourd'hui, Rennes est très avancé sur le multiservice, pas les autres, mais toutes les cartes qui sont diffusées aujourd'hui sur toute la Bretagne, partout, sont multiservices. Dès 2011-2012, on l'a pensé comme ça. Je me rappelle un jour, j'avais dit à Daniel Lavaud, si on continue sur la carte Corrigo comme ça... On va s'attaquer aux GAFA, quand même.
Vous pouvez retrouver Noël Philippe dans le second épisode consacré à la deuxième ligne de métro. C'était Rennes, j'écoute, les voix du service public, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour les Archives de Rennes, avec une musique de Robert Meunier.